Let's kill all the lawyers.
Droit en scène, une émission d'Emmanuel Saulnier-Cassia. Droit en scène est l'émission d'Amicus Radio qui fait dialoguer le juriste et l'artiste pour mieux comprendre pourquoi et comment le droit devient un sujet ou un objet artistique. Aujourd'hui, Emmanuel Saulnier-Cassia, Louise Maréchal et Jod Beng reçoivent Lucie Nicolas et Jonathan Ekel pour parler du dernier voyage Aquarius, une pièce écrite et mise en scène par Lucie Nicolas, créée en 2021 et qui continue à tourner depuis.
Bonjour Lucie Nicolas, bonjour Jonathan Ekel. Je suis ravie de vous accueillir dans Droit en scène pour une émission qui a été préparée avec les étudiants de l'option clinique juridique du Master 2 Droit international et européen des droits fondamentaux de l'Université Paris-Saclay et qui ont vu avec moi le dernier voyage Aquarius à la MC 93 en novembre 2024. Avant d'en parler ensemble, Louise et Jod vont vous présenter aux auditeurs d'Amicus.
Lucie Nicolas, après des études en économie, en sciences politiques et en arts du spectacle, vous vous tournez vers le théâtre où vous développez une carrière riche et éclectique. Artiste aux multiples talents, vous êtes metteuse en scène, dramaturge, comédienne et vous avez collaboré avec des grandes figures telles que Jean-François Perret, Stanislas Nordet ou encore la marionnettiste Maud Hufnagel. Avec cette dernière, vous donnez vie à des créations marquantes comme Petit Pierre, Pisteur, Dans moi. Votre démarche artistique se distingue par un travail ancré dans le réel où vous explorez les croisements entre différentes disciplines, images, manipulation d'objets, musique et même dessin en direct. En 2000, vous fondez la compagnie La Concordance des Temps et cofondez le collectif F71, connu pour ses œuvres inspirées par la pensée de Michel Foucault, comme Foucault 71, La Prison ou encore Notre Corps Utopique. Plus récemment, vous êtes à l'origine de créations novatrices comme Noir, un roman graphique théâtral, et Songbook, un concert dessiné. Et bien sûr, vous êtes ici aujourd'hui en studio avec nous parce que vous avez écrit et mis en scène, en collaboration avec le collectif F71, Aquarius, un oratorio musical et épique, je reprends vos mots. Le texte est publié par Esque Édition.
Jonathan Ekel, vous débutez votre formation au Studio Théâtre d'Asnières avant d'intégrer en 2003 l'École du Nord. Acteur permanent au Théâtre du Nord pendant 5 ans, vous jouez dans des spectacles de Stuart Sedd et d'artistes associés tout en mettant en scène plusieurs petites formes avec la troupe. En 2013, vous mettez en scène et jouez Modeste Proposition, un spectacle atypique créé dans une boucherie où vous travaillez le matin, répétez l'après-midi et jouez le soir. Ce projet donne naissance à la compagnie Théâtre à Vide que vous fondez avec Delphine Proutot. Avec cette compagnie, vous explorez des projets singuliers, tels Abeilles, fruit d'une collaboration avec des apiculteurs et des scientifiques. Parallèlement, d'autres compagnies font appel à vous pour des mises en scène, notamment La Plus Forte de Strindberg et Casse-Cache de Valérian Guillaume. Vous développez également un savoir-faire en manipulation de marionnettes et théâtre d'objets. Vous avez également fait vos premiers pas au cinéma avec un rôle principal dans Cœur de neige de Lise Motion. Dans Aquarius, objet de notre rencontre aujourd'hui, vous incarnez plusieurs personnages, dont le narrateur, un membre de l'équipe de sauvetage et une personnalité politique.
Le dernier voyage, Aquarius, est donc une pièce écrite et mise en scène par vous, Lucie Nicolas, en collaboration avec le collectif F71. Votre pièce illustre les enjeux juridiques et les tensions politiques, médiatiques et humanitaires de ces jours passés à bord de l'Aquarius, à l'aide de différents témoignages que vous avez recueillis, afin d'illustrer au plus proche la réalité de l'un des événements qui a marqué de manière caractéristique cette longue période de ce que les médias appellent la crise migratoire. Cet événement est l'un des sauvetages opérés par le navire Aquarius de l'association SOS Méditerranée. Petit rappel avec Jod.
Alors, en juin 2018, le navire Aquarius sauve 629 migrants de la noyade. Pourtant, le bateau va devoir errer durant 10 jours en mer, depuis le large des côtes libyennes jusqu'à Valencia en Espagne. Suite au refus sans appel du chef du gouvernement Matteo Salvini, alors que l'Italie était le lieu de débarquement le plus proche et que le bateau allait manquer de vivres, l'Union européenne en tant que telle a été impuissante à contraindre les États et c'est le nouveau Premier ministre espagnol Pedro Sanchez qui a finalement proposé d'accueillir le navire humanitaire.
Et puis quand on s'approche, j'en ai la chair de poule. C'est indescriptible. Une mer d'huile, avec des gens entassés, mais entassés sur un truc tout petit qui dépasse à peine de l'eau. Il y a des dizaines et des dizaines de visages serrés.
Hello.
Bonjour.
My name is Max.
Je m'appelle Max.
And we are here
nous
to
sommes
help
là
you.
Pour
Nana
vous aider.
Please,
s'il vous plaît,
restez calme.
Nous ne faisons pas partie des gardes-côtes libyens.
Nous
ne vous ramènerons pas en Libye.
Nous venons d'écouter un premier extrait qui se passe au moment du sauvetage. Alors Lucie, Nicolas, tout d'abord assez simplement, comment avez-vous eu connaissance de cet événement en juin 2018 qui est au cœur de la pièce et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire et monter un spectacle sur cette odyssée de l'Aquarius ?
Bonjour et merci déjà de cette invitation. Alors en fait, tout simplement, j'écoutais la radio et j'ai entendu cette information qui disait que donc ce bateau de sauvetage, l'Aquarius, était rempli de personnes rescapées et les ports italiens étaient fermés. L'Italie refusait de leur offrir le débarquement et... En tant que citoyenne d'abord, avant même en tant qu'artiste, je n'ai pas compris cette information. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'on refuse à des personnes qui ont failli se noyer, qui viennent juste d'être sauvées, de débarquer, quoi. Et c'est cette incompréhension qui m'a motivée à essayer de comprendre un peu plus ce qui était en train de se passer, pourquoi des États... pouvait mettre des bâtons dans les roues à des organisations humanitaires comment ça se passait. J'ai eu envie de comprendre un peu plus comment se passait le sauvetage en mer et quelles étaient les tensions politiques, géopolitiques en jeu.
Et justement, pour mieux comprendre, vous avez réalisé un véritable travail d'enquête auprès des personnes qui ont traversé ces événements. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail très particulier? Comment le recueil de ces témoignages s'est-il conjugué avec votre processus d'écriture?
En fait, j'avais eu ce premier contact avec cette histoire par les médias et je me suis dit justement il faudrait raconter l'histoire par un autre biais, c'est-à-dire par les voix de ceux même qui étaient à bord, c'est-à-dire les personnes rescapées et les sauveteurs, les humanitaires. Donc j'ai contacté SOS Méditerranée, ça a pris déjà un certain temps avant d'établir ce contact-là. Ils m'ont fait rencontrer une première personne parmi les sauveteurs avec qui j'ai fait un premier entretien. Donc ça a été une série d'entretiens, enfin déjà une recherche de toutes les personnes qui étaient à bord en croisant aussi les sources, les articles, tous les noms que je pouvais voir. J'ai rencontré aussi la journaliste Anne-Lise qui était à bord de l'Aquarius sur cette rotation-là. Et à partir de ce premier entretien, en fait, comme une chaîne, j'ai eu les contacts petit à petit d'autres personnes. Et à chaque fois, je leur demandais, j'allais jusqu'à eux, où ils habitaient, où ils étaient. Et je leur demandais de me raconter toute l'histoire de leur point de vue depuis le moment où le bateau avait quitté la Sicile jusqu'à l'arrivée à Valence. Donc évidemment avec des points de vue différents puisqu'il y avait à bord les humanitaires de Médecins Sans Frontières, donc plutôt des médecins, des coordinateurs culturels, etc. Et des marins sauveteurs de SOS Méditerranée et de l'autre côté des personnes rescapées. Et elles, je leur demandais de me raconter depuis le moment où elles avaient quitté leur maison, leur pays, jusqu'à l'arrivée à Valence. Et comme ça, en fait, donc c'était des témoignages assez longs, des entretiens qui pouvaient durer 3 heures ou plus. J'ai été à Valence, en Espagne, pour rencontrer les personnes rescapées. J'étais en Suisse, dans un peu différentes régions de France, en Bretagne, à Marseille, à Bordeaux, à Lyon, etc. Et au fur et à mesure que je rencontrais ces personnes et que je récoltais leurs témoignages, c'était comme un puzzle qui se constituait et dont les pièces se rassemblaient, et je me rendais compte que finalement je me retrouvais avec le témoignage de quelqu'un qui me racontait par exemple le sauvetage du point de vue des marins sauveteurs, en disant j'ai eu l'impression d'avoir raté mon sauvetage, je me sentais très coupable que les gens soient tombés à l'eau, etc. Et de l'autre côté, un rescapé qui dit on n'a pas compris pourquoi ils sont repartis tout de suite et le bateau s'est renversé, etc. Et je pouvais comme ça recomposer des scènes à partir des témoignages fragmentés, mais que je rassemblais à nouveau. C'est comme si je rassemblais à nouveau toutes ces personnes dans le spectacle, quoi.
Vous venez de citer l'association SOS Méditerranée ainsi que Médecins Sans Frontières. Il faut souligner particulièrement leur rôle, et je souhaite indiquer que le Théâtre du Châtelet a accueilli à peu près au moment de vos représentations une très belle soirée artistique de soutien à SOS Méditerranée, aux actions, aux bénévoles, pour rendre à la fois hommage à l'association et dénoncer l'urgence humanitaire qui continue toujours, bien sûr, malheureusement en Méditerranée, et aider à la poursuite des opérations de sauvetage par désormais l'Ocean Viking, qui a pris le relais d'Aquarius. On va peut-être en reparler. Mais revenons au cœur de votre pièce, qui questionne avec un dispositif sonore, musical, théâtral, qui est vraiment captivant, on y reviendra, les obstacles qui se heurtent à la gestion de la crise migratoire en Méditerranée à travers inévitablement le prisme juridique, et qui dénonce les contradictions des politiques migratoires européennes, comme vous venez de le dire, qui criminalisent l'assistance aux migrants malgré les obligations du droit maritime international et des droits de l'homme. Et cette pièce, votre texte, interroge également le principe de solidarité européenne et les failles des dispositifs juridiques, notamment le délit de solidarité. Et l'inefficacité des mécanismes aussi de relocalisation qui ont été créés, qui ont existé, tout en mettant en lumière l'urgence d'une action concrète face à l'indifférence institutionnelle. Alors, je vais laisser Louise et Jode faire quelques rappels aux auditeurs sur ce cadre juridique principal. Quel est ce cadre qui est principalement celui du droit de la mer, mais aussi d'autres obligations internationales et européennes des États dans ce même sens?
Alors, il existe en droit international une obligation coutumière de prêter assistance aux personnes en détresse en haute mer, c'est-à-dire dans l'espace qui s'étend au-delà des frontières maritimes des États. Cette obligation, qui est désormais notamment codifiée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, pèse sur les capitaines de navires qui naviguent en haute mer, mais c'est avant tout l'État, auprès duquel le navire est immatriculé, qui doit s'assurer que le capitaine s'en acquitte de manière effective. Mais avant même cette convention, dite de Montego Bay, les États européens avaient adhéré à la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime de 1979, à travers laquelle ils ont décidé d'établir des zones de recherche et de sauvetage, ou zones SAR, Search and Rescue, sur l'ensemble de l'espace méditerranéen. En vertu de la Convention de 1979, les États côtiers ont donc délimité de telles zones qui sont sous leur responsabilité, exclusivement concernant l'assistance de personnes en détresse, et ils coordonnent leurs actions par l'intermédiaire de différents centres de coordination et de sauvetage nationaux, appelés MRCC en anglais.
On peut ajouter que, même si l'État côtier exerce une souveraineté sur sa mer territoriale, elle reste limitée par le droit international, notamment sur les questions du droit de passage inoffensif pour les navires étrangers. Dans le cas d'Aquarius, l'Italie pouvait refuser son entrée pour des motifs légitimes, comme la sécurité nationale, mais aucun de ces motifs ne semblait applicable ici. En refusant l'autorisation sans justification valable, l'Italie a violé ses obligations au titre de la Convention de Montego Bay.
Nous n'avons rejeté personne. Nous avons demandé au pays plus proche et plus sûr que le nôtre de faire ce que nous faisons depuis des années. L'Italie ne peut continuer à porter toute seule le poids énorme de l'immigration.
Si un bateau avait la France pour rive la plus proche, il pourrait accoster. Car c'est le respect du droit international. L'Italie doit recevoir l'Aquarius.
Aucun port français, ni Corse, ni Nice, ni Marseille. L'Aquarius a une destination toute trouvée. Il faut qu'il retourne vers les côtes libyennes.
Le droit international, monsieur le député Ciotti, prévoit en la matière un principe simple, un principe clair, un principe qui a justement pour objet de permettre de garantir la sécurité des personnes dans ce type d'urgence. C'est celui de l'obligation pour l'État qui se trouve le plus proche, dont les côtes se trouvent le plus proche de ce bateau, de proposer un port sûr. C'est l'Italie qui devrait, en la matière, assurer ses responsabilités. Elle a choisi de ne pas le faire. Et donc de méconnaître les obligations internationales qui lui incombent. Et il faut pointer les choses, les dire clairement que l'Italie, le gouvernement italien, a choisi de ne pas respecter les obligations internationales qui lui incombent. Et je pointe ce non-respect. Il y a là la preuve d'une sorte de cynisme et, d'une part, d'irresponsabilité du gouvernement italien.
On vient de l'entendre avec ce deuxième extrait. À côté des règles et des principes juridiques, il y a aussi le jeu politique. On pourrait même dire une certaine forme de politisation des vies humaines que la pièce met très habilement en lumière. Les événements de l'Aquarius s'inscrivent dans un contexte où les États européens font fi en quelque sorte de leurs obligations internationales, en dépit des situations extrêmement précaires dans lesquelles se trouvent les personnes migrantes, non seulement lors de leur traversée en mer, mais également dans les pays qu'elles quittent ou par lesquels elles transitent. Lucie Nicolas, pouvez-vous nous parler plus en détail de la façon dont vous avez abordé cette dichotomie entre droit et politique dans votre spectacle, notamment à la lumière des enjeux humains qui y sont liés?
Waouh. Alors, en fait, c'est, je pense, en faisant le choix de nous placer du point de vue du navire, c'est-à-dire non seulement en allant chercher les témoignages des personnes qui étaient réellement à bord dans ce moment-là précis et qui ne comprenaient pas ce qui se passait, puisque même les humanitaires n'avaient pas l'habitude. C'était la première fois, en fait, enfin, ou dans les premières fois que ce genre de situation arrivait. Donc, ils n'étaient pas prêts. Ils n'avaient pas de solution toute faite pour réagir à la situation. Et d'autre part, en créant un contraste, en fait, scénique, même scénographique, sur la mise en scène des différentes voix, puisqu'il s'agit plus de voix que d'incarnation, de corps. Et donc, on a la parole, juste avant, la parole de personnes rescapées qui sont au centre du cercle, du cercle de pied de micro, ce cercle représentant un petit peu l'espace du navire, qui exprime leur incompréhension sur ce qui est en train de se passer et leur peur, en fait, d'être renvoyés en Libye. Et dans la scène suivante, comme ça, juxtaposée, les acteurs montent sur des enceintes, enfin se mettent un petit peu en hauteur et prennent la parole de ces personnes politiques qu'on vient d'entendre, de manière déjà en surplombant, en hauteur, avec beaucoup de micros devant eux, dans la mise en scène de la parole publique, puisque ce ne sont que des paroles qui ont été réellement prononcées. Donc il y a un effet un peu presque ridicule, presque un effet de cours de récréation maternelle, de l'ordre de « oui, bon, il faut les sauver, mais pas chez moi, chez toi, non, chez toi, non, pas chez moi ». Et se renvoyer comme ça la balle paraît déconnecté en fait de la situation humaine que sont en train de vivre les personnes à bord, en surnombre sur le pont du bateau, avec des questions de logistique, de nourriture, de soleil qui tape très fort avec des gens qui sont sur le pont du bateau, pour finir par devoir traverser une tempête pour aller finalement jusqu'en Espagne. Donc il y a quelque chose d'incohérent pour des marins, de dire vous nous faites faire du trajet en plus, 1500 km de plus pour aller jusqu'en Espagne, alors que si la question c'est de les faire débarquer dans un certain pays, pas de problème, on les fait débarquer au plus proche, c'est-à-dire la sécurité avant tout, et ensuite ben, on prend des cars, enfin n'importe quoi pour les emmener dans les pays qui vont les recevoir. Mais du coup on se rend compte qu'en fait c'est aussi la question du traitement des demandes d'asile et la loi Dublin qui en fait entre en jeu dans ce refus de l'Italie. Et on peut dire que même si, enfin, voilà, Salvini n'est pas vraiment le chevalier blanc à ce moment-là, mais en même temps, il exprime quand même quelque chose du point de vue italien, puisque ça fait quand même des années que l'Italie est seule à gérer la situation et envoyer la garde civile en mer pour essayer de récupérer les gens. Donc, c'est aussi le point de vue de la répartition des personnes qui demandent l'asile sur le territoire européen.
Oui, l'Italie et la Grèce aussi beaucoup, mais voilà. Aussi l'Italie dans une coordination avec des pays tiers, et notamment la Libye, vous y avez fait référence tout à l'heure. Jonathan Haeckel, par exemple, quand vous avez commencé à travailler sur le spectacle en tant que comédien, vous aviez connaissance vous-même de ce qui se passait entre l'Italie et la Libye, par exemple ?
Non, c'est des choses qu'on a appris en s'intéressant et en plongeant dans le projet sur l'invitation de Lucie, qui a mis à disposition énormément d'informations, les enregistrements de tous les entretiens qu'elle avait pu faire. Et effectivement, à force de travail, on se rend compte de tous les enjeux et des enjeux effectivement politiques entre la Libye et l'Italie et tous les autres pays. Et non, c'est pas quelque chose dont on avait connaissance, mais on a appris à le connaître. Et après, tout l'enjeu pour un comédien est essayer de donner cette information.
Alors, on va demander à Jod de faire un petit point sur les accords avec les pays tiers.
Alors, effectivement, un protocole a été signé le 2 février 2017 entre la Libye et l'Italie afin que l'Italie et l'Union européenne aident les gardes côtiers en leur fournissant notamment un soutien financier et des moyens techniques afin de faciliter l'interception des migrants en mer Méditerranée et leur renvoi vers la Libye. Mais différents rapports émanant des Nations Unies, d'ONG telles que Amnesty International ou Médecins Sans Frontières ou encore des juridictions comme la Cour européenne des droits de l'homme dénoncent les graves violations des droits humains commises par la Libye sur les migrants, comme des meurtres, des disparitions forcées, des tortures, des réductions en esclavage, des violences sexuelles et j'en passe. Le rapport de la mission d'enquête indépendante des Nations Unies sur la Libye en date de juin 2022 parle même d'un motif raisonnable de croire que des crimes contre l'humanité sont commis contre les migrants en Libye. En effet, bien que ce type d'accord semble en totale contradiction avec des valeurs défendues par l'Union européenne, prévues notamment à l'article 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ceux-ci n'ont pas cessé d'exister ou ont été renouvelés.
Pour poursuivre dans cette logique, parlons de la solidarité. Vous y avez fait référence tout à l'heure, Lucie Nicolas. Au-delà du sens commun qu'on lui attribue dans le cadre des rapports humains, la solidarité dispose d'un sens juridique très important en droit de l'Union européenne, puisqu'elle est censée caractériser la société dans laquelle les États membres adhèrent à un certain nombre de valeurs communes, dont le respect évidemment des droits fondamentaux. Alors, comment avez-vous perçu l'un et l'autre, j'allais dire, en tant que citoyen artiste ? Vous l'avez dit tout à l'heure, d'abord en tant que citoyenne, ensuite en tant qu'artiste. Comment avez-vous perçu cette crise de la solidarité et plus particulièrement après avoir travaillé sur ce sujet et avoir réuni tous ces témoignages ?
Eh bien, déjà, dans les entretiens, en fait, il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre d'une empathie très forte et même de l'admiration vis-à-vis des personnes que j'ai interrogées. Évidemment, de l'admiration vis-à-vis des sauveteurs, mais également des personnes qui traversent la mer et qui sont un peu les Ulysse d'aujourd'hui, quoi, et qu'on devrait plutôt considérer comme des héros ou des héroïnes que je ne sais pas comment on les considère aujourd'hui, comme des envahisseurs ou des mendiants. D'autre part, voilà, j'ai eu un trouble, surtout au moment où j'étais à Valence, puisque je suis restée là-bas une semaine en essayant de rencontrer le plus possible de personnes rescapées et qui étaient à ce moment-là, qui avaient choisi l'Espagne, puisqu'ils sont arrivés à Valence, mais la France a envoyé des officiers de l'OFPRA pour en prendre une partie. Ça a été presque, on peut dire, un casting, puisque la France a choisi des personnes essentiellement d'origine soudanaise qui remplissaient à l'époque tous les critères pour obtenir l'asile rapidement. Et donc, ils l'ont eu dans les 15 jours. Et les personnes qui étaient restées en Espagne ont vécu ça comme une très grande injustice, puisque ils étaient restés en Espagne parce que l'Espagne avait dit « venez chez nous ». Donc ils se disaient « ah voilà, nous on vient donner nos forces à l'Espagne ». Et ils étaient dans une situation où pour certains, ils avaient déjà eu un refus, où ils étaient dans des difficultés financières, de logement, de se nourrir, etc. Et de comprendre quelque chose au droit, voilà, au droit d'asile et quelles étaient leurs autres alternatives s'ils n'avaient pas le droit d'asile. Et en même temps que j'étais là pour avoir leur témoignage, j'essayais de comprendre moi aussi la loi et de les aider. Et ce qui m'a vraiment plongée dans un gouffre, parce que je savais plus très bien où était ma ligne artistique. J'ai dû avoir un temps de recul en rentrant en France pour arriver à faire des choix artistiques, des axes dramaturgiques, à couper. Puisque j'avais des longueurs, des histoires où je me disais, mais il faut tout dire, et c'était pas possible. Donc, il y a eu ce moment de tremblement comme ça.
Alors, c'est très intéressant ce que vous venez de dire au regard de ce qui a été fait aussi avant vous, parce qu'il y a eu de nombreux spectacles depuis une dizaine d'années sur ces questions de migration et d'asile. Et justement, il y a eu différentes formes dramaturgiques qui ont été retenues, certaines proches de la mythologie, vous avez fait référence à Ulysse, certaines très poétiques, je pense notamment au travail de Lina Prosa. Et ça a dû être effectivement quelque chose de très complexe sur le plan artistique de choisir ces formes dramaturgiques. Et la question aussi qui a dû intervenir à un moment de militantisme ou pas militantisme dans le travail que vous avez opéré. Alors, j'aimerais bien justement que vous poursuiviez sur ce sujet-là. Est-ce que vous considérez que votre pièce est un plaidoyer en faveur des droits fondamentaux et plus largement, et ça va être très difficile de répondre à cette question, pensez-vous que le théâtre et votre théâtre peut influencer les débats juridiques, notamment sur cette question migratoire, dans un contexte, encore une fois, où les drames continuent de se succéder en Méditerranée?
J'aimerais... En tout cas, j'essaye de m'adresser aux spectatrices dans ce sens. Ce ne sont peut-être pas des personnes qui ont les compétences ou les pouvoirs d'influencer ce débat. Mais ce qui m'a motivée dans la création de ce spectacle, c'est vraiment déjà à commencer par moi, de comprendre ce qui était en jeu et de pouvoir me faire une idée personnelle. Donc j'essaye pas dans le spectacle de convaincre d'un point de vue, on porte les paroles assez fidèles des personnes qui étaient à bord et qui, elles, expriment leur point de vue. Et du fait de se placer du point de vue du navire, des personnes qui sont à bord, qui vivent des choses difficiles, qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui essayent de réagir de manière solidaire et en tant que communauté, voilà, j'essaye que pendant le temps de la représentation, on forme également une communauté, nous, les spectatrices et les actrices et les techniciens, etc., dans le temps de la représentation, à l'égal de cette communauté qui s'est formée pendant ce voyage. Donc, moi, j'essaye de faire des spectacles dont on sort avec des cartes en main, des armes et de l'énergie et une envie de faire quelque chose. Après, que ça arrive à transformer le débat juridique, je ne sais pas, mais il faudrait faire venir des juristes en masse, ce que vous avez fait. On ne sait pas toujours qui est dans la salle, nous, donc voilà.
Je me souviens des gens. Des gens qui arrivent.
Je me souviens d'Izitu qui revient chercher des bananes, des rafts, des lifecraft, tous les objets flottants possibles pour mettre le plus de naufragés en sécurité avant de les ramener vers l'Aquarius.
Je me souviens de cette pensée obsédante de vouloir attraper Max pour lui dire « On doit changer les journalistes, laisse-moi mettre un autre journaliste à bord. » Je me souviens de Max qui me hurle « Il y a 50 personnes à la mer, c'est un sauvetage critique. » Je me souviens d'insister.
Après ce troisième extrait de votre pièce, j'aimerais que l'on revienne encore sur vos choix scénographiques et de mise en scène que vous avez un tout petit peu abordé tout à l'heure. et qui font de la pièce une expérience visuelle et sonore particulièrement marquante, comme on l'a dit. Je pense notamment, vous y avez fait référence tout à l'heure, au placement des micros au centre de la scène, ainsi qu'à l'utilisation très ingénieuse de l'espace par les comédiens, de leur jeu corporel, de la diversité de leur voix, qui donne un aperçu à la fois des différents rôles et parcours des personnes en mer, des membres de l'équipage, des humanitaires, des journalistes, des rescapés, mais aussi des personnalités politiques. Pour tout vous dire, quand j'ai re-regardé la distribution de votre spectacle, je me suis dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas que 3 comédiens, ils étaient 12, vraiment, je vous assure, c'était incroyable. Et donc j'aimerais bien que, à la fois en tant que vous metteuse en scène, Lucie, et vous en tant que comédien, Jonathan, vous nous parliez de ces enjeux liés à la restitution de la parole et à votre engagement dans cette interprétation de la pluralité de toutes ces voix sur scène. Parce qu'au plateau, c'est autre chose qu'en théorie, dans le découpage des entretiens que vous avez dû faire.
Il faut dire que j'avais l'idée dès le début que ce spectacle serait sonore et musical, et j'ai tout de suite demandé à Fred Costa, qui est musicien et qui est lui aussi sur scène et qui joue de la musique live, mais également qui a composé toutes les bandes-sons qui sont diffusées pendant le spectacle et qui s'entremêlent en fait avec la musique jouée en direct, de m'accompagner et de co-écrire finalement la partition en quelque sorte du spectacle. Et concernant la scénographie, c'est avec Fred et avec Clément, le régisseur son, qu'on a vraiment penser la scénographie, c'est-à-dire que j'ai dit, moi, je veux que des éléments de technique du spectacle vivant, aussi avec Laurence sur la lumière, mais en particulier sur le son. Donc on a ce cercle de pied de micro, et ça, on l'a trouvé ensemble. C'est vraiment eux qui ont aussi eu les idées. On a essayé des choses, et puis quand on a trouvé le cercle, on a vu que il y avait cette notion d'être enfermé sur un espace clos qui est le pont du bateau, et qu'autour, il y a l'eau, quoi, la mer. Et Clément, il travaille énormément aussi en collaboration, enfin en interaction avec les interprètes sur le plateau, puisqu'il travaille des effets sonores sur leur voix aussi. Donc on a vraiment toute une partition de quand on parle dans une VHF, quand on parle à voix nue, quand on parle au MRCC, etc. Et c'est tout codifié et travaillé sonorement, et le son est très suggestif en fait, fait qu'on est projeté en mer, quoi. Tu veux parler des voix ?
Oui, je peux parler. Nous, l'engagement dans le projet, évidemment, on est traversé par toutes ces forces qui sont très importantes pour nous, pour défendre. C'est pas tous les jours qu'en tant qu'interprète, on peut défendre des sujets qui nous tiennent à cœur comme ça. Et donc, comment on va rentrer en tant qu'interprète là-dedans ? On est soutenu par la scénographie et par la technique, effectivement, pour rendre les choses lisibles et intelligibles. Et nous, à l'intérieur, il faut qu'on trouve l'endroit où notre interprétation va donner le plus grand impact à ces paroles-là, pour pouvoir faire en sorte que ces paroles entrent dans le répertoire culturel général, autant qu'une parole de Bérénice, par exemple. Et du coup, puisque ce serait ça l'enjeu, quelque part, au final, je le pense vraiment, et après qu'il y ait des impacts sur les lois, par exemple. Mais du coup, il faut rentrer dans ces paroles-là avec une certaine humilité, au final. Il y a des choses où on a pu plus incarner, comme les politiques, par exemple. On a pu un petit peu plus s'amuser avec, puisque ce sont des paroles publiques de toute façon. Mais pour des paroles plus intimes qui ont été rapportées à Lucie Nicolas, il fallait voir à quel endroit on pouvait rapporter ces paroles-là sur scène, dans ce dispositif sonore, appuyé par ce dispositif sonore, pour qu'elle puisse passer la rampe, quoi, pour qu'elle puisse être entendue, et qu'on se, que ce soit pas trop incarné non plus, pour pas que ça devienne presque indécent. Et donc c'est un endroit d'interprétation assez intéressant. Des fois on incarne beaucoup, des fois un peu moins, ça dépend des passages.
Et comme ils sont que 3 et qu'ils ont beaucoup de protagonistes à défendre, il y a quand même des petites différenciations qui sont déjà gardées dans le texte et qui sont des fois un peu exagérées par rapport à la réalité des personnes qui m'ont parlé, mais juste pour aider à différencier tel ou tel protagoniste. Et ensuite, c'est la composition des comédiens, mais c'est vrai toujours à la lisière de l'incarnation. Ils ont des caractéristiques qui différencient chaque personnage protagoniste qu'ils représentent, mais il ne faut pas que ça dépasse un certain seuil, quoi.
Et il y a une chose dont vous n'avez pas encore parlé, c'est la place du spectateur, parce qu'elle n'est pas anodine dans votre spectacle. C'est un autre élément de mise en scène à souligner. J'aimerais bien comprendre comment vous avez conçu ce dispositif, vous Lucie Nicolas en tant que metteuse en scène, mais vous aussi Jonathan Ekel en tant que comédien, de cet accompagnement des spectateurs avant même que le spectacle ne commence. Mais en fait, le spectacle commence avant que le spectateur ne s'en rende compte, et qui le plonge tout de suite dans une expérience émotionnelle très, très inédite quand même. Donc, comment avez-vous imaginé cette implication du public, l'un et l'autre ?
Moi, je dirais... D'accord, je commence. Moi, je dirais que c'est un jeu très théâtral. C'est-à-dire, on dirait maintenant que vous êtes les passagers. Et on implique les gens là-dedans. Et on dirait maintenant que vous êtes juste des spectateurs, on s'occupe plus de vous. Et en fait, on peut changer le statut du public assez facilement avec juste le pouvoir de la parole et du jeu. Et donc, c'est quelque chose de très... ça renouvelle l'écoute, c'est important pour nous. Et puis, c'est assez joyeux à faire en tant qu'acteur de pouvoir rentrer comme ça, effectivement, sur cette entrée du public. On commence dans le hall, on est très proche de nous, mais en même temps, on n'est pas complètement nous. Et puis, ça permet d'entrer petit à petit dans cette histoire-là pour embarquer les gens avec nous, véritablement, quoi.
L'idée de les faire agir avec nous dès le début, de nous aider même à apporter du matériel jusque dans la salle, comme si la scénographie n'était pas complètement prête, c'est aussi que de penser que la représentation et la salle de théâtre va être comme partir sur ce bateau, quoi. Donc embarquer. Donc il y a vraiment cette analogie entre le plateau et le navire, mais sans jamais le dire. En laissant les gens actifs, et c'était vraiment cette idée de communauté dont je parlais tout à l'heure, de dire vous aussi vous pouvez être actif, vous pouvez faire partie de l'équipage en quelque sorte, mais parfois vous êtes un journaliste, parfois vous êtes une personne rescapée, parfois ça change, on vous assigne pas de manière frontale un rôle, quoi. Et c'est aussi Jonathan qui m'a donné cette idée de début, parce que dans ses spectacles, il joue beaucoup sur l'indétermination de ses débuts de spectacle. Il fait semblant d'être un éboueur, mais on ne sait pas très bien. Et donc, en fait, c'est pas pour vraiment en faire un spectacle participatif, c'est plus pour plonger les spectatrices qu'ils se sentent concernés et qu'ils demeurent actifs pendant toute la représentation.
Et je pense que c'est ce que nous avons tous ressenti, en tout cas les présents dans le studio qui avons assisté au spectacle. Un quatrième mur qui tombe tout de suite, et c'est tant mieux. Et peut-être aussi un effet de catharsis qui est très évident tout au long du spectacle par ces implications diverses. On arrive malheureusement au terme de cette émission. Est-ce que vous avez l'un et l'autre des projets qui continueraient sur ce thème de l'asile ou un futur spectacle en liaison avec le droit ?
Je pense que beaucoup de choses ont rapport avec le droit. Là, je travaille plutôt sur un spectacle qui donne la parole aux non-humains, c'est-à-dire aux animaux, végétaux, micro-organismes. Et je sais que c'est une question assez intéressante en ce moment de voir si pour défendre un écosystème, on peut considérer par exemple une rivière comme une entité juridique, etc. Donc c'est des choses que je lis. Je m'intéresse à ces choses-là. Et sinon, plus dans le... dans la même voie un peu que Le Dernier Voyage, même si ça n'a pas vraiment de rapport. Il y a un spectacle qui continue de tourner aussi, qui s'appelle Songbook, et qui est un concert dessiné et qui porte sur les discriminations de toutes sortes.
Très bien, formidable. En tout cas, je peux vous confirmer que l'animal et le droit sont un grand sujet d'actualité chez les juristes actuellement. Le concept de One Health auquel vous avez fait référence, les rivières, etc. Ça fait vraiment partie des sujets en pointe. Et d'ailleurs, l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, université Paris-Saclay, vient de sortir un très bel ouvrage sur l'animal et le droit. Petite auto-promo de l'université. Et vous, Jonathan Ekel?
Sur le droit spécifiquement, non. Ceci dit, je travaille sur Phèdre de Sénèque en ce moment avec des étudiants. Et c'est assez intéressant puisqu'on se concentre effectivement sur qu'est-ce qui est sauvage, qu'est-ce qui est de l'ordre des lois naturelles et des lois pas naturelles. Est-ce que, voilà, toutes ces questions-là, qu'est-ce qui est de l'ordre de la nature humaine ou de la nature globale, du vivant en général?
Merci beaucoup Jonathan Ekel et Lucie Nicolas d'être venus échanger sur votre pièce Le Dernier Voyage Aquarius, dont on espère qu'il tournera encore longtemps sur les scènes françaises. Avis à tous les amis programmateurs.
C'était Droite en scène.
J'ai reçu aujourd'hui la metteuse en scène Lucie Nicolas et le comédien Jonathan Ekel, avec Louise Maréchal et Jode Bing, que je remercie chaleureusement, ainsi que Béthule Bayram, Lucie Boyer, Ambrine Faré, Violette Liard, Ilona Maille, Anaïs Rampal, Assina Razafi Mandimbay, Marie Stanisheva, pour les recherches documentaires, ainsi que Charlotte Peupelier, et Sarah Ziani pour la sélection des sons, Maëlle Colong pour le très beau travail d'écriture et enfin Leopardo Arango pour la réalisation.
Vous retrouverez sur le site internet d'Amicus Radio, à la rubrique Droit en scène, toutes les références citées dans l'émission, le lien vers la chronique du droit dans les arts consacrée au dernier voyage Aquarius sur actuejuridique.fr, coécrit par Sarah Ziani. N'hésitez pas à vous abonner au podcast de Droite en scène pour ne rater aucune émission et suivre Amicus Radio sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte Instagram Revue d'art en scène.